Je suis très heureux que Dominique, qui devient un ami avec son épouse Laura, ait un profond respect pour ceux qui pratiquent leur sport à l'intérieur. Parce que très récemment, j'ai acheté ce que je ne pensais jamais acheter. Un vélo sans roue. Pour quelqu'un qui est canadienne, québécoise, mon épouse. Et je n'aurais pas voulu qu'il y ait des conflits entre nos deux familles. Très heureux d'être avec vous pour continuer à méditer la parole de Dieu. C'est beaucoup, cette succession d'études, de réflexions, de temps de prière, d'études en groupe, de conférences, de cultes. C'est beaucoup en deux jours. Oui, mais quand on pense au retard que l'on a, souvent, devant la parole de Dieu, par rapport aux nombreuses influences de la pensée du monde qui nous tombent dessus des heures et des heures sans que nous ayons quoi que ce soit à faire. Ça nous tombe dessus. Donc quel bonheur, quel privilège d'équilibrer un peu les choses et de prendre beaucoup de temps pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je suis aussi très heureux de garder le contact avec le GBU qui m'est cher, et ma joie est profonde de voir que par la grâce de Dieu, le GBU va de l'avant, qu'il persévère, que la relève, que les relèves sont là, et qu'il progresse en Christ, je le crois, et j'en bénis le Seigneur. Hier, je vous ai proposé un tour d'horizon des expressions bibliques les plus proches à mes yeux du thème de notre congrès. Je vous ai proposé 5 groupes de textes, ceux qui nous invitent à marcher, à progresser, ceux qui nous invitent à croître, à grandir, ceux qui nous invitent à construire, à édifier, ceux qui nous invitent à être forts. Et ceux qui nous disent le bonheur de notre Dieu quand nous portons du fruit et quand nous marchons vers la maturité. Dans une deuxième partie, j'ai voulu rappeler qu'il y a un lieu privilégié, en fait un lieu unique, où tout cela peut se passer. Le psaume 1, Jean 15, Éphésiens 4 en particulier, nous enseigne que c'est dans la proximité de Dieu, dans la connaissance de Jésus-Christ, qu'il me faut, qu'il nous faut être. J'aimerais insister 2 minutes sur ce point avant d'aller plus loin. Avec beaucoup de reconnaissance pour tout ce que Dominique nous a partagé, qui va tout à fait dans ce sens en méditant Philippiens. Oui, c'est tellement important d'être au bon endroit, dans le bon contexte, d'être proche de Dieu. Il me faut être enraciné dans sa parole, être bien attaché à Jésus-Christ comme un sarment au cep s'il veut porter du fruit. Il me faut vraiment connaître Jésus-Christ. J'aimerais vous donner un témoignage de 2 minutes d'une redécouverte de ce besoin il y a une 20aine d'années quand j'étais étudiant à Paris. GBUcien heureux, chrétien quelquefois inquiet, honteux de ne pas être ce que j'aurais dû être. Et un texte m'a beaucoup aidé à redécouvrir l'importance de la connaissance du Seigneur. Acte 80, les apôtres répondent à ceux qui les jugent et qui leur interdisent de parler du Seigneur. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Eh bien, moi, j'y arrivais. Non. Quel était le problème? Quel est le problème chez moi? Chez nous, peut-être, trop souvent. Quand nous pouvons ne pas parler de quelqu'un qui est si bon, si grand, ne pas faire connaître sa grâce, son amour, sa justice autour de nous. Quel était mon problème principal? C'est clair. je ne le connaissais pas assez. Si je le connais bien, je dirai avec les apôtres, je ne peux pas ne pas parler de celui que j'ai vu et entendu. Éphésiens 4, que nous avons lu hier dans les petits groupes, je relis un seul verset, toujours pour nous rappeler l'importance de la connaissance de Jésus-Christ, Éphésiens 4, 13. L'apôtre Paul nous invite, invite les Éphésiens à grandir jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Comment arrive-t-on à cela? Par une connaissance, par la connaissance du Fils de Dieu. Sa vie, sa mort, correspondant à la condamnation qui aurait dû tomber sur moi, sa résurrection, affirmant sa victoire, m'assurant la justification, le mystère de la substitution, que je vous invite à continuer à méditer. Dieu a voulu que sa mort, que la mort, que la condamnation de Jésus-Christ enlève la mienne. Le mystère de la substitution. Il a été condamné pour qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour un pauvre pécheur comme moi, qui mérite la condamnation éternelle et qui croit. Que le Seigneur nous prépare une place d'éternel bonheur. Après avoir fait le tour de plusieurs expressions bibliques qui nous exhortent à progresser, après avoir rappelé l'importance du contexte, du lieu où nous devons être en Christ, je vous ai annoncé deux autres parties pour ce matin, deux parties cherchant à répondre à la grande question, mais comment ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et au fait, est-ce que j'ai quelque chose à faire ? Comment ça marche ? Nous arrivons à la troisième partie de l'exposé. Si le titre n'est pas affiché, tant mieux. Trop tard. C'est pas grave, vous l'auriez deviné dans deux secondes. Je commence par la lecture d'un texte très connu. Tite 2, 11 à 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Troisième partie, par grâce. C'est la grâce qui est agissante du début à la fin. La grâce n'est pas qu'un vague concept lié à l'amour de Dieu, c'est la réalité même agissante. C'est la cause première, le moteur de tout vrai bien. Regardons ce texte de plus près qui a déjà été lu en introduction à notre congrès vendredi soir. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Jusque-là, pas de surprise pour la plupart d'entre nous. Un rappel important du salut non mérité, du salut par grâce reçu par la foi grâce à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Aucun autre moyen de salut pour tous les hommes de tous les peuples de tous les siècles que la grâce offerte par Jésus-Christ. Mais ensuite, c'est moins évident et nous l'avons beaucoup moins en tête souvent. Je me souviens du jour où j'ai mieux découvert cela, justement en méditant Tite 2, 11 à 14. La grâce nous enseigne, la grâce nous conduit, nous permet de vivre, nous tire vers l'avant. Elle nous enseigne deux grandes choses. Elle nous enseigne à renoncer, Elle nous enseigne à faire le bien. Elle nous aide à repousser le mal. Elle nous aide à nous attacher au bien. Elle nous apprend à faire le ménage. Elle nous apprend à installer le bien. Tout cela à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ qui revient, nous l'attendons, dit Paul à Tite. La grâce donc toujours, du début à la fin. Plusieurs livres sur la table souvent évoqués traitent de ce sujet. Nous retrouvons cet enseignement fondamental que Paul a voulu rappeler en écrivant sa lettre aux Galates, une des rares lettres où il se fâche tant. La grâce, source de salut, oui, est de progrès, de victoire. Sa grâce nous tire constamment en avant. Et j'aimerais que nous méditions encore ce matin cela. Il n'y a pas de levier plus fort que la grâce pour nous faire avancer. La parole l'enseigne, donc je l'affirme. Modestement, j'ajoute que j'en ai fait l'expérience. Avec moi, avec d'autres. Aucune loi, aucun regard extérieur impressionnant n'a la force que nous donne la compréhension de la grâce pour lutter contre le mal et contre le péché. C'est surprenant. Nous l'oublions et le légalisme revient au galop souvent. Mais c'est clairement enseigné. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Aucun levier n'est plus fort que la grâce. Je n'ai jamais trouvé de ressource plus grande que de penser au pardon que Jésus-Christ m'offre, m'a acquis en étant condamné, crucifié, cloué à ma place au moment où le péché m'attire. Je ne connais rien de plus fort que la grâce. Deuxième texte que je lis avec vous ce matin, 2 Thessaloniciens 1, 11 et 12. L'apôtre Paul prie pour les progrès des Thessaloniciens. Que dit-il ? C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel et qu'il accomplisse en vous avec puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Paul prie constamment pour les Thessaloniciens, pour que Dieu les transforme avec sa puissance, selon sa bienveillance et sa grâce, pour la gloire de Jésus-Christ, par la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Là encore, si l'apôtre Paul prie pour les Thessaloniciens avec persévérance, c'est sans oublier que le seul moyen de progrès pour les Thessaloniciens, ce n'est pas d'être impressionné par un apôtre, ce n'est pas de réentendre simplement les choses qu'ils ont besoin de réentendre, l'apôtre Paul le dira, mais c'est que la grâce de Dieu les porte plus loin. Troisième texte que j'ai déjà évoqué hier, qui depuis quelques semaines m'est extrêmement cher, Galates 5, 22. L'apôtre Paul dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et avec ce texte, j'aimerais vous inviter à rêver. À rêver de façon réaliste. À rêver bibliquement. À rêver avec la certitude de l'accomplissement du rêve. Parce que nous sommes devant un rappel solennel de l'apôtre Paul qui oppose les œuvres naturelles, les œuvres que nous savons faire tout seuls, aux fruits de l'Esprit dans une lettre qui rappelle l'œuvre incontournable, l'œuvre centrale de la grâce. La grâce toujours du début à la fin. C'est le cœur du discours de l'apôtre Paul aux Galates. Quand il se fâche, comme je le disais tout à l'heure, avec amour bien sûr, en leur disant « Insensés que vous êtes. Vous avez commencé par la grâce et vous voulez faire des progrès avec la loi ? Incroyable folie qui vous est tombée dessus. Non, c'est par la grâce seulement que vous pourrez continuer. Vous êtes nés par la grâce. Vous ne pouvez vivre et croître que par la grâce. Ce fruit est si beau. C'est le fruit de l'Esprit. C'est le cadeau que Dieu veut développer en nous. Et je vous ai invité il y a quelques secondes à rêver. Je ne sais pas comment vous avez lu jusqu'à maintenant, en général, Galates 5, 22. J'imagine deux attitudes qui ne s'opposent, qui ne s'interdisent pas l'une l'autre, mais deux attitudes assez différentes qui peuvent exister. L'une nous conduit à la honte, et Dieu voulant à l'intercession, à la repentance. L'autre nous conduit au rêve, à l'adoration. Je voulais vous rappeler celle qui nous conduit au rêve. Il n'est pas faux d'avoir honte devant ce que le fruit de l'Esprit est. Vous avez reconnu qui c'est d'ailleurs. Vous le connaissez. Nous sommes là pour apprendre à mieux le connaître. Celui qui est décrit dans Galates 5, 22. Jésus-Christ. Il n'est pas faux d'être mal à l'aise, d'être conduit à la repentance quand nous lisons Galates 5, 22. Mais il est grave, et je prétends qu'il est faux, d'en rester là. L'apôtre Paul a écrit aux Galates pour annoncer la grâce, pour leur dire que l'Esprit veut développer en eux le fruit qu'ils ne pourront jamais construire eux-mêmes. Les hommes ne peuvent que développer les œuvres naturelles. Le fruit de l'Esprit ne peut être que le fruit de l'Esprit, ne peut être que ce cadeau de Dieu qu'il nous offre. Osons donc rêver et adorons celui qui a commencé à développer en nous le fruit de l'Esprit. Il est juste, je l'ai dit, de reconnaître nos manquements. Il est faux de s'en tenir là. Il est possible de dénoncer tout ce qui va de travers dans les églises, pas dans le GBU, mais dans les églises. Mais il est faux d'en rester là. Et c'est grave. C'est un affront au Seigneur. Dans les églises, il y a énormément de choses qui sont l'œuvre du Seigneur. Il y a des miracles de repentance, de réconciliation. Il y a des progrès. L'œuvre de l'Esprit est là. Le fruit de l'Esprit se développe. J'ai le droit, quelquefois, j'ai le devoir de reprendre mon frère ou ma sœur qui s'égare. Mais j'ai aussi le devoir de remarquer le fruit de l'Esprit qui se développe en lui et en elle. Le fruit de l'Esprit est une réalité. Et le fruit de l'Esprit est une promesse. Par grâce. La grâce donc, toute suffisante, pour sauver, pour éduquer, pour transformer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a pu dire à son jeune frère Timothée, 2 Timothée 2:1, « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul invite Timothée à être fort, nous l'avons vu hier. L'apôtre Paul rappelle à Timothée que ce n'est que dans la grâce, en Christ, que Timothée peut vraiment être fort. La grâce est nécessaire, rien n'est plus fort que la grâce. La grâce est suffisante. Tout est par grâce. L'apôtre Paul a entendu ces paroles du Seigneur dans son épreuve. « Ma grâce te suffit. » Et il a enseigné aux Colossiens, « Nous avons tout pleinement en lui. » Donc c'est bon. Plus rien à faire. Tout est grâce. Tout est grâce. Alors pourquoi ne sommes-nous pas toujours, tous, à toute heure, au top? Au fait, l'Écriture ne laisse-t-elle pas une place aux efforts, à ma volonté, à ma liberté, à ma responsabilité? Quatrièmement, en faisant tous nos efforts. Oui, nous ne pouvions pas, il aurait été extrêmement grave et faux de parler de notre thème, de réfléchir ensemble à nos progrès en Christ, sans rappeler que tout est grâce. Nous ne pouvons que courir sur place si nous cherchons à aller de l'avant sans connaître mieux le Christ et sans mieux comprendre sa grâce et recevoir sa grâce. Mais une fois que nous avons compris cela, ou plutôt quand nous sommes en route, en train de toujours mieux comprendre cela, il nous faut aussi accepter d'entendre tous les appels de l'Écriture qui nous enseignent à faire tous nos efforts. Et une des exigences du thème qui nous occupe est de comprendre autant qu'on le peut les articulations entre la grâce et les efforts, ce qu'on appelle quelquefois la part de Dieu et la part de l'homme. Ne comptez pas sur moi pour résoudre le problème. Beaucoup de questions, des questions me dépassent. Mais j'aperçois, en lisant la parole de Dieu, que les uns et les autres ne s'annulent pas. Et que si tout est grâce, la parole de Dieu m'enseigne constamment que je dois être tendu en faisant tous mes efforts pour obéir et pour suivre mon Seigneur. Premier texte que je vous lis, 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses, les plus grandes, nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, etc. 2 Pierre 1, 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il faut. Verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts. Un des textes les plus forts pour nous aider à méditer l'articulation entre grâce et effort. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de choses restent mystérieuses. En particulier pour moi, le fait que tout ce que je fais, et même la volonté de le faire, et même les efforts que je peux faire pour aller du bon côté, je le dois à Dieu. Voilà. Beaucoup de choses me dépassent. Toujours est-il que 2 Pierre 1 m'aide énormément à comprendre que tout est grâce, mais que je dois, que j'ai la responsabilité, que ma volonté est engagée et que je dois faire les bons choix. En d'autres termes, selon une image qui m'est venue, la grâce ne nous installe pas dans un hamac. Tout est grâce, mais la vie chrétienne est très difficile, très exigeante, et il ne s'agit pas de s'endormir quand nous comprenons la grâce. La grâce est tout sauf un hamac. Les efforts personnels sont extrêmement importants. Le même Paul dit au même Timothée, 1 Timothée 4,15, « Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. L'apôtre Paul a enseigné à Timothée la grâce. Et il dit en même temps à Timothée, applique-toi, sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents. J'espère ne pas trop vous décevoir. Vous connaissiez déjà bien la parole en venant ici. Nous ne pourrons pas progresser sans effort. Je vous avais promis qu'il n'y aurait pas de recette. Non seulement il n'y a pas de recette, mais il n'y a pas de principe biblique qui me permette de me relaxer. Maintenant, je vais progresser. Non, il me faut continuer à mieux connaître mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il me faut comprendre que je dépends de la grâce du début à la toute fin de ma vie chrétienne et qu'aujourd'hui, comme nous l'avons médité hier aussi, je ne peux rien faire sans Jésus-Christ et sans sa grâce. Mais il me faut accepter pourtant que la parole de Dieu m'enseigne qu'il y a une grande place dans ma vie pour les efforts, pour la discipline, pour la détermination. Et le combat est rude. Ne nous trompons pas de combat. Et j'aimerais vous inviter à l'honnêteté ce matin, en lisant un verset qui a réorienté ma vie il y a quelques années. J'étais déjà croyant, j'avais déjà été GBUcien, j'étais déjà pasteur et déjà dans quelques conseils. Et ce verset a complètement réorienté ma vie. Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve, la course qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce que j'ai redécouvert par ce texte il y a quelques années, c'est que nous nous trompons souvent de combat. C'est vrai qu'il y a des combats à mener dans beaucoup de domaines. C'est vrai qu'il faut mieux faire dans beaucoup de domaines. C'est vrai que dans les structures, dans les organisations, dans les relations interpersonnelles, il y a des progrès à faire. C'est vrai qu'il faut passer du temps pour améliorer cela. Mais c'est une farce grave si nous oublions que le combat central, c'est ma lutte contre le péché qui m'enveloppe facilement. Et c'est devenu beaucoup plus clair pour moi. Soyons honnêtes. Qu'est-ce qui a le plus fait patiner Étienne dans sa vie depuis une trentaine d'années de vie chrétienne? Qu'est-ce qui a le plus mis des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui m'a fait le plus perdre du temps? Dans mon cas, c'est clair. C'est le péché qui m'enveloppe si facilement. Une belle course, de beaux exemples, une nuée de témoins, l'exemple du Christ en acceptant les souffrances et en acceptant que la lutte soit rude. Romains 7, je fais partie des lecteurs de l'Écriture qui considèrent que ce texte correspond très bien à la vie de l'apôtre Paul, déjà apôtre. Quand il écrit, après avoir dit la justification en Jésus-Christ, avant de dire que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ, Romains 8, l'apôtre Paul dit dans Romains 7 ces paroles étonnantes, « Je fais le mal que je ne veux pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Toi aussi, Paul ? Oui. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux est très clairement quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, qui a déjà fait un bon bout de chemin. Et il dit du péché qu'il nous enveloppe si facilement. L'apôtre Paul dit en Romains 7, « Je fais le mal que je ne fais pas. » Et je confesse ce matin devant vous que je n'ai aucun combat plus solennel que de combattre contre le péché qui m'enveloppe. Le Seigneur a dit, avant de mourir, dans le jardin de Gethsémané, à ses disciples, « Veillez et priez, parce que votre chair est faible. » L'esprit est bien disposé. Et le Seigneur pourrait nous dire, quand vous êtes à un congrès GBU, vous pouvez être enflammé pour moi. Mais souvenez-vous, la chair est faible. Le combat est rude. Le Seigneur a dit, l'Éternel, il y a 3000 ans, un peu moins, par Ésaïe, « Ma main n'est pas raccourcie, ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. » La grâce de Dieu est nécessaire, suffisante, immense, mais le péché nous fait encore beaucoup de tort. Il y a donc place pour les efforts dans la vie chrétienne de celui qui a compris, qui proclame, qui est convaincu que tout est grâce et qu'aucun pas n'est vécu si ce n'est par grâce et qu'aucune bonne action n'est menée si ce n'est par grâce, qu'aucune prière n'est juste si ce n'est par grâce. Mais il y a de la place pour apprendre la maîtrise de soi et pour vivre la détermination dans la vie. J'ai appris et j'apprends encore ces temps-ci à dire non à des pensées mauvaises qui m'arrivent. Et je dis merci à Dieu pour des victoires qui paraissent petites quand des pensées mauvaises n'ont fait que tourner autour de moi et que je ne les ai pas laissées s'installer, parce que d'autres fois je les laisse s'installer. Oui, il y a place pour les efforts, il y a place pour la détermination, et je vous ai réinvité ce matin, dans l'honnêteté, à lutter contre le péché. Dernier point, toujours dans le quatrièmement, il y a place pour l'effort. J'ai pensé faire un tour d'horizon rapide de quelques moyens importants pour cette lutte que je viens de rappeler comme étant extrêmement rude. La lutte est rude. Quels sont les moyens pour s'en sortir? Alors là, accrochez vos ceintures, mettez vos casques, je vais enfoncer des portes ouvertes. Le sont-elles vraiment ouvertes? Ne sont-elles pas souvent encombrées, ignorées? Je veux parler de la lecture, de la prière, de la communion fraternelle. Oui, j'appelle ça enfoncer des portes ouvertes. Mais cela est tellement le cœur de ce que j'ai dû réapprendre grâce au thème qui a été suggéré pour cette conférence, pour tout ce congrès, depuis 5 mois. Oui, j'ai une bonne nouvelle. Depuis quelques mois, je lis plus la parole. Eh oui, la méditation, la préparation de ce thème m'ont aidé à redécouvrir des portes qui devraient être ouvertes. L'influence de la parole de Dieu sur nous est tellement nécessaire. Comme je le disais tout à l'heure, nous subissons tellement d'autres influences sans rien avoir à faire. Mais la parole de Dieu doit équilibrer. L'Esprit n'a jamais promis d'ouvrir la parole de Dieu à ma place. Bizarre, hein? Je me lève le matin et c'est à moi d'ouvrir la Bible. L'Esprit ne l'a jamais fait pour moi. Il promet d'ouvrir mes yeux, mon cœur, mon entendement. Mais j'ai le devoir de choisir d'ouvrir la parole. Et trop souvent dans ma vie, j'ai choisi de ne pas l'ouvrir ou de l'ouvrir rapidement. C'est un choix. Et en fait, pour tout vous dire, je suis vraiment étonné devant la santé des églises, devant ma santé spirituelle, quand j'aperçois en discutant avec les uns et les autres le temps que nous passons en moyenne pour lire la parole de Dieu. J'en arrive au point où je ne suis pas simplement désolé, attristé, je le suis, devant ce qui ne tourne pas rond dans les églises. Mais j'en arrive au point où je suis vraiment étonné que ça marche si bien. C'est bizarre. On est si peu nourri. La grâce de Dieu, ma responsabilité pour me nourrir régulièrement de la parole. Deuxième porte ouverte, la prière. Je cite à nouveau ce texte que j'ai évoqué tout à l'heure. Le Seigneur nous dit « Veillez et priez ». L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Dans le même contexte, il y a un verset qui m'a laissé rêveur. Dans ma même période inoubliable gébéussienne, il y a une vingtaine d'années, vous vous souvenez de ce que le Seigneur dit dans le même contexte? Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Même pas une heure? Combien d'entre nous passent régulièrement une heure à adorer le Seigneur? Soyez gentils, ne me demandez pas de répondre. Combien de fois je le fais? Mais vous l'avez deviné. J'ai besoin de mieux vivre ma relation avec le Seigneur en connaissant ces moments de prière, de respiration. La prière a été de façon très intéressante comparée à la respiration de l'être intérieur. Et là, j'ai la même surprise que tout à l'heure. Comment fait-on pour vivre avec si peu d'air si la prière est la respiration? Oui, dans la lecture de la parole, dans la prière, dans le silence, dans le recueillement, à l'écoute du Seigneur, je vais être conduit là où le fruit de l'Esprit va me conduire, en particulier vers l'humilité, la bonté, la bienveillance, l'adoration devant celui qui est si bon, si grand, la repentance, si nécessaire. De même que tout est par grâce du début à la fin. De même, la repentance doit être une caractéristique des chrétiens qui progressent du début à la fin. J'espère qu'aucun d'entre vous n'a encore en tête ce faux schéma qui dit qu'un jour je me suis repenti. Les chrétiens devraient être des exemples et peuvent être par la grâce de Dieu des exemples de personnes qui régulièrement, chaque fois qu'il le faut, se repentent, reconnaissent leur tort, ne veulent pas avoir le dernier mot, toujours s'excuser, toujours sortir la tête haute. Quelle attitude pécheresse catastrophique! Le chrétien est une personne, un homme, une femme, qui se repent de ses fautes. La lecture de la parole, la prière, troisième porte, l'Église, les frères et sœurs, la communion fraternelle. Un verset qui nous le rappelle, Philippiens 1, 25, l'apôtre Paul dit « J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. » Un des nombreux textes qui évoque les progrès communautaires, les uns à côté des autres, les uns par les autres. Le texte que nous avons lu hier dans les groupes se termine, Éphésiens 4, 16, avec cette belle image du corps dans lequel tous les membres grandissent et participent à la croissance les uns des autres. De Jésus-Christ, Éphésiens 4, 16, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Croissance communautaire. L'Église, le groupe GBU bien sûr, a son rôle à jouer pour que nous nous édifions les uns les autres, que nous nous aidions à grandir les uns à côté des autres, les uns avec les autres. Lecture, prière, communion fraternelle. J'ai annoncé trois portes ouvertes que j'allais enfoncer. Étonnamment simple, mais je crois que cela correspond à l'enseignement biblique que j'ai besoin de continuer à méditer. Et comme je vous l'ai un peu dit avec reconnaissance hier, je peux vous redire d'une façon nouvelle, ce matin, ça marche. D'ailleurs, en évoquant mes frères et mes sœurs et les amis qui m'aident à marcher avec le Seigneur, j'aimerais ajouter à ma petite expérience personnelle l'expérience d'autres. En fait, je n'ai jamais trouvé un chrétien, une chrétienne qui fasse des efforts pour se discipliner avec ces trois portes ouvertes et qui ne soit pas fortifié en Christ. J'ai jamais trouvé. Il nous faut accepter la discipline en croyant que par grâce, le Seigneur va nous faire progresser. Dernière remarque pratique concernant ces portes ouvertes, simplement un mot pour nous rappeler l'importance des priorités. Une image m'a aidé, certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, ce grand professeur d'université donnant un cours sur la gestion du temps, qui a pris un récipient, qui a sorti quelques cailloux, qui a rempli le récipient et qui a demandé à ses grands étudiants, le récipient est-il plein ? Il dit oui. Il dit non. Il a sorti un autre sac avec des graviers. Et il a fait couler les graviers dans le récipient. Il a dit aux étudiants, est-il plein ? Et les plus vifs d'esprit ont dit, pas sûr. Il a sorti du sable. Et il a rempli le récipient avec le sable. Est-il plein ? Non. Il a sorti de l'eau et il a rempli le récipient. Et là, il a dit aux étudiants, quelle est la leçon que je veux vous laisser avec cette illustration ? Et les jeunes cadres dynamiques ont dit, quand un récipient est plein, on peut encore en mettre. Quand on croit que notre agenda est rempli, on peut toujours caser quelque chose. Il a dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. La leçon qu'il nous faut comprendre, c'est que si j'avais progressé dans l'ordre inverse, c'était impossible. Nous ne pourrons jamais mettre les choses les plus importantes dans notre vie, les gros cailloux, les priorités, si nous commençons par le reste. Nous ne pourrons jamais trouver le temps dans notre vie pour les priorités si nous commençons par le reste. Cette image m'a beaucoup aidé. Il est vital de placer les priorités dans notre agenda avant de placer les priorités secondaires. Sinon, nous ne pourrons jamais, jamais mettre les cailloux quand il y aura du sable et des graviers qui peuvent être un tas de bonnes choses. Mais s'il y a trop de sable et de gravier déjà dans mon récipient, je ne pourrai jamais mettre les cailloux. Je demande pardon à Dieu, je le bénis pour sa grâce et je prie pour vous. Il est temps de conclure, de refaire un peu le puzzle. Premièrement, entendons les appels nombreux, le petit tour d'horizon que j'ai refait avec vous. Les appels nombreux qui nous sont adressés par le Seigneur lui-même et par tant d'auteurs bibliques et par l'Esprit qui veut nous tirer plus loin. Comprenons l'appel qui nous est adressé à grandir et laissons en nous se développer cette soif de croissance et de progrès. Deuxièmement, soyons enracinés au bon endroit. Soyons attachés à Jésus-Christ. Jésus-Christ que nous avons tant besoin de connaître et de mieux connaître. La prédication du culte tout à l'heure correspond au point que j'avais mis là, donc je peux passer. Je partage cet étonnement que Dominique a voulu refaire naître en nous devant l'apôtre Paul qui connaissait 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois mieux le Seigneur que moi. Il avait quand même écrit des lettres remarquables quand il dit « Mon but, c'est de le connaître ». Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers Gébéussiens, plus ou moins connus de moi, la grande question avec ce point-là est « Connais-tu Jésus-Christ ?» Au point que tu désires toujours plus le connaître, au point que tu ne peux pas ne pas parler de lui, au point que rien ne compte plus que le désir de mieux le connaître dans ta journée, dans l'organisation de ton temps, de tes vacances, de ton année. Rien ne compte plus que connaître Jésus-Christ. Parlez-moi d'autre chose, d'accord, on va voir ce qu'on peut en faire. Mais le connaître, lui, ça c'est l'essentiel. Je vous le souhaite, je nous le souhaite. Troisièmement, et j'inverse volontairement les points 3 et 4 de mon exposé, troisièmement, acceptons la place des efforts et de la discipline. Je vais absolument terminer avec la grâce. Troisièmement, acceptons la place des efforts et de la discipline. Souvenons-nous que la grâce ne sera jamais bien illustrée par un hamac. Reconnaissons que la lutte est dure et faisons tous nos efforts pour nous organiser, pour avoir les bonnes priorités et pour que notre agenda le reflète. Une discipline de vie et des priorités vont contribuer à notre croissance. N'oublions pas les choses simples. N'allons pas chercher midi à 14 heures. Oui, sinon ça fera encore 2 heures. Lecture, prière, communion. Combien de fois nous ratons des occasions de nous mettre à genoux à 2, à 3 pour parler à notre Dieu. Un frère m'a fait beaucoup réfléchir il y a quelques années devant un de ses troubles. Il m'a dit, on vient de passer 2, 3 heures à jouer ensemble, on a fait un tas de choses sympathiques, on n'a même pas éprouvé le besoin de parler à notre Père. Bizarre. Ne soyons pas légalistes du tout. Mais ça m'a fait réfléchir. N'oublions pas les choses simples. Ne nous privons pas de la lecture, de la prière, de la communion fraternelle, ces moyens de grâce que le Seigneur nous a donnés. Quatrièmement, la cerise sur le gâteau. Comprenons toujours mieux, jour après jour, que tout ne peut naître et se développer que par grâce. Que en Christ. Que par son esprit. Et quand nous aurons organisé au mieux notre journée, pourquoi pas notre semaine, quand nous aurons décidé avec une détermination nouvelle que nous voulons prendre du temps pour nous nourrir de la parole, souvenons-nous que tout est grâce. Sinon nous ferons fausse route et nous allons patiner. Méditons encore et toujours la grâce, source de salut pour tous les hommes, soit, et unique source de régénération, de sanctification, de progrès. Courons toujours en avant pour mieux connaître le Christ. Dans sa grâce, il veut nos progrès. Dans sa grâce, il veut nous transformer. Dans sa grâce, il a commencé à nous transformer à sa ressemblance. Je termine avec le mot d'ordre du GBU en lisant tout le texte de Pierre, qui est la conclusion de la deuxième lettre de Pierre. Quand il a tout dit, Pierre, qu'est-ce qu'il a à dire ? Vous donc, bien-aimés, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Voilà ce que Pierre dit quand il a tout dit. Voilà ce que nous devons nous dire quand nous avons tout dit. Bien-aimés, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour la prière, parce que tu as voulu que nous puissions nous arrêter devant toi, faire le point, te parler, t'écouter, nous recueillir. Merci Seigneur pour la joie d'être ensemble et de pouvoir être au bénéfice de ton esprit qui veut souffler sur nous et nous dire à tous qu'il faut progresser. Merci pour ton œuvre en nous. Merci pour ce fruit de l'esprit qui est cadeau. Seigneur, nous voulons du fond du cœur, parce que c'est toi qui l'as mis dans notre cœur. Nous voulons du fond du cœur progresser encore. Nous avons soif de mieux te connaître. Nous avons soif de plus et mieux te ressembler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à dire communautairement cette prière. Je crois que nous la partageons tous et que le Seigneur peut la faire pénétrer en nous, te ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par tous mes efforts en moi, par ton esprit, rends-moi semblable à toi.